Mutin de 1917, Serge Géroyot, sur une chanson de Jacques de Broncard. Vous écoutez Radio Libertaire et c'est encore Trou Noir.
Un trou noir, je pense, pour une dernière séquence avec René Berthier autour de Kropotkin, de son livre Kropotkin et la Grande Guerre, les anarchistes à CGT, la social-démocratie face à la guerre. On a vu comment la social-démocratie allemande a toujours refusé de développer toute idée de grève générale et a fini par voter les crédits de guerre. Mais est-ce que la social-démocratie en France a suivi aveuglément? Est-ce qu'elle a essayé de faire autre chose? Puisque quand même il y a une autre tradition au-delà des anarchistes en France ou des syndicalistes. C'est quand même une autre tradition qui n'est pas tout à fait celle, même pas du tout en fait, du SPD allemand. Donc, évidemment, tu ne vas pas parler de tous les événements, mais qu'est-ce qui te paraît important de montrer par rapport à la position des socialistes français et de leur relative soumission, quand même?
Alors, oui, je pense qu'il y a deux choses qu'on peut dire, justement, par rapport aux socialistes français. C'est leur soumission un peu béate devant leurs camarades allemands, mais aussi, il y a eu Jean Jaurès qui a joué un rôle important. Parce que c'était un type extrêmement intelligent et il a compris que le syndicalisme révolutionnaire était quelque chose d'incontournable. Mmh. Bon. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, les socialistes français se sont trouvés dans une situation de soumission psychologique, en quelque sorte, devant leurs camarades allemands qui présentaient des candidats, qui étaient élus, etc.
4 millions d'adhérents, quand même, avec la guerre, si je me souviens bien.
Ce qui était loin d'être le cas en France, quoi, je veux dire.
Plus tout l'appareil syndical, plus tout ça.
Les dirigeants allemands donnaient en quelque sorte des diplômes de bonne conduite au Parti Socialiste étranger. Mmh. Et à un moment, il y a, je ne sais plus si c'est... c'est Bebel qui vient en France et qui dit que les socialistes français sont bien et tout. Alors ils sont tous très contents. Mais c'est touchant, quoi. Mmh. Et puis c'est en même temps rageant, quoi. Et j'ai une citation de Hubert Lagardelle, qui était un théoricien du syndicalisme révolutionnaire, qui a un peu mal fini à la fin, mais à cette époque-là, le témoignage reste valable. Ouais. Et il dit, par exemple, l'hégémonie intellectuelle du socialisme allemand devait être plus profonde encore que ne le prévoyait Bakounine, parce que Bakounine avait justement parlé de ça, en cas de victoire prussienne. C'est le prestige des vainqueurs d'imposer moralement par la conquête leur méthode et leur procédé. Le triomphe de l'Allemagne sur la France a saisi de crainte admirative l'Europe qui pour un temps s'est faite allemande. Le socialisme n'a pas échappé à la suggestion, il est resté subjugué par la social-démocratie. On note bien qu'il fait la différence entre socialisme et social-démocratie. Mmh. Bon. Les adversaires du socialisme allemand y ont vu ce qu'avait prédit Bakounine, un socialisme à casque à pointe, dogmatique, doctrinaire et pédant. Quelle qu'ait été la valeur de ces théoriciens, quels que soient les services qu'il ait rendus, il faut reconnaître que la rigidité du marxisme allemand l'a fait souvent accuser d'avoir enchaîné la pensée socialiste dans des formules étroites et arrêté son élan pour de longues années. Bon. Et il y a un autre militant syndicaliste révolutionnaire qui disait « Mais nous étions finis, nous étions un peuple vaincu ». Pour exprimer la manière dont les socialistes français ressentaient cette hégémonie psychologique du socialisme allemand.
Bon. Mais ce qui est un peu étonnant, si tu veux, c'est que l'image, moi, que j'avais, que ça allait pas aussi loin, quoi. C'est peut-être schématique, mais je me disais, les marxistes orthodoxes, du point de vue allemand, en gros, enfin, c'est peut-être schématique, c'était les guédistes. Ces guédistes, ils étaient quand même pas majoritaires. Pas du tout au sein du mouvement syndical, puisqu'ils ont été plus ou moins balayés, notamment à Amiens, la charte d'Amiens et tout ça, et pas forcément hégémonique dans le mouvement socialiste français. Donc comment ça s'est fait que petit à petit, malgré que les représentants, entre guillemets, officiels, les guédistes, soient minoritaires, ils ont fini par suivre, en fait, un peu aveuglément, quoi.
Alors, les guédistes étaient sans doute ceux qui étaient les plus orthodoxes et les plus... sensibles à l'influence allemande.
Ah bah eux, c'était clair, le parti dirige le syndicat, bon, pas de grève générale, ou en tout cas pas décidé par le syndicat.
Oui, le Guédi, c'était la fraction la plus orthodoxe marxiste.
Parti ouvrier français, c'est ça, ouais. Pour ceux qui connaissent.
Mais ils n'étaient pas majoritaires. Enfin, ils ont été importants à un moment, mais très peu. Pas très longtemps.
Alors, c'est passé par quel courant après ça ? Je ne comprends pas très bien.
Ce qui s'est passé, c'est que Jaurès, qui était férocement anti-anarchiste, anti-anarchiste de manière extrêmement virulente. Ouais. Bon. Et il a écrit un texte contre la grève générale, par exemple. Mais ça, c'était pas dirigé contre les anarchistes, c'était dirigé contre les syndicalistes révolutionnaires. Ce texte est intéressant parce que il est intelligent. Enfin, il dégueule pas, quoi, contre la grève générale. Il explique. Bon. Et la CGT a répondu. Elle a répondu en deux articles à cet article de Jaurès. Bon. Et Jaurès a fini par comprendre que la notion d'indépendance syndicale qui avait été votée à Amiens était quelque chose d'incontournable, en tout cas pour un temps. Et
En gros, il tenait compte des réalités.
Voilà. Bon. Et il a dit, OK, bon, il y a la notion d'indépendance syndicale en France, on va l'accepter. Voilà. Bon. Et il n'a pas cherché à s'y opposer. Bon. Et le Parti socialiste a intégré cette notion, quoi, pendant un temps. Ce que les Allemands ne comprenaient pas. Mais c'était dans un autre contexte. Et donc, je pense que Jaurès a été c'est un personnage extrêmement intéressant que j'ai découvert, redécouvert il y a peu de temps, quoi. Et j'ai remarqué, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a beaucoup d'analogies dans son mode de raisonnement avec celui de Bakounine, curieusement. Ça peut paraître bizarre. Bon, ils ne vont pas aux mêmes conclusions, mais il y a beaucoup de raisonnements qui sont presque identiques, quoi.
Et tu penses que son rôle a été important, justement, pour trouver une position un peu intermédiaire, quoi, entre les orthodoxes purs et durs et peut-être un peu limités intellectuellement, bon, j'exagère un peu, genre guédiste, et puis la réalité en français, ce qui n'était pas la même que la réalité allemande. Mais en restant quand même, je pense pas que Jaurès était sur des positions anarchistes.
Pas du tout. Il était contre la grève générale. Enfin, il pensait pas qu'on puisse faire la révolution sociale par la grève générale.
Ouais, bon. C'est ça, ouais.
Mais il était favorable à une grève générale en cas de guerre, ce qui n'est pas la même chose. Bon. Et il a tenté, lui aussi, jusqu'au dernier moment, d'obtenir une action commune qui a échoué. Bon. Et bon, là, c'est une réflexion parfaitement personnelle. Mais je pense qu'il aurait fini par, s'il n'avait pas été tué, il aurait fini par rallier le ralliement à l'Union sacrée.
Oui, oui, oui.
Je pense.
Enfin, bon, ah oui, d'accord.
Je vais même plus loin. Je pense que l'attitude des syndicalistes révolutionnaires français qui ont fini par se rallier à l'Union sacrée est la conséquence du refus systématique et méprisant des dirigeants socialistes allemands à leur égard, refusant de discuter la moindre action contre la guerre. Et les gars ont dû se dire, bon, ils nous font chier, tant pis pour eux. Quelque chose comme ça, quoi. Mais d'accord. Bon, ça, c'est une opinion absolument personnelle.
Pour continuer dans ton opinion personnelle, puisqu'il nous reste un peu dans la dernière séquence, on pourrait développer encore, il y a beaucoup d'autres points dans ce livre, même si on a essayé d'aborder un peu l'essentiel. Mais si on fait maintenant un bilan, bon voilà, la guerre de 14, on sait comment elle s'est déroulée. Est-ce que, quand on sort de la guerre de 14, on peut dire quand même que le mouvement syndical, on a pris un sacré coup, enfin en France en tout cas. Le socialisme à l'allemande, ben, il va quand même rester relativement dominant dans l'international socialiste qui continue. Donc, finalement, est-ce qu'il y avait quelque chose de possible à faire d'autre, vu les forces, pas uniquement d'ailleurs des anarchistes, mais vu les forces relativement réelles quand même, des gens qui étaient opposés à la guerre, hein, enfin, qu'est-ce que tu penses en fait ?
Alors, je pense qu'il faut parler un peu du mouvement anarchiste à la veille de la guerre.
Oui.
Le mouvement anarchiste français était extrêmement divisé. Il n'y avait pas d'organisation nationale, il y avait des groupes locaux.
Oui, qui faisaient un boulot, mais
des fédérations
locales,
de groupes locaux. Bon, qui étaient engagés dans la lutte des classes, mais pas toujours. Certains étaient anti-syndicalistes. C'est très, très compliqué. Bon, et pour ne pas parler de ce fractionnement en différents courants, genre individualiste, végétarien, espérantiste, chacun pensant que c'est leur machin qui allait permettre l'émancipation humaine. Quoi. Bon. Et donc c'était un mouvement qui globalement n'était pas très efficace. Et en 1913 a été convoqué un congrès en vue de constituer une fédération nationale, où il y avait pas mal de monde. Mais pas mal de courants aussi. Et il y avait un type qui s'appelait Mauritius, qui est par ailleurs un mec très intéressant, bon, mais qui était un individualiste et qui est venu à ce congrès, qui a foutu la pagaille pendant une journée et qui a fini par être éjecté à coups de pompe dans le cul parce qu'il empêchait les débats, quoi. Bon. Et les têtes pensantes du mouvement anarchiste de l'époque, dont Jean Grave, ont pris clairement, je crois que c'est Sébastien Faure aussi, ont pris clairement position contre l'individualisme.
Ah oui.
Eux, ils ont. Non, c'est ce que beaucoup d'anarchistes aujourd'hui ignorent. C'est qu'à ce congrès de 1913, l'individualisme a été rejeté et qualifié d'idéologie bourgeoise. Enfin bon, je ne sais plus. Et Sébastien Faure a menacé de quitter le congrès si ce Mauritius n'était pas viré, quoi. Bon. Et donc, il y a eu une position extrêmement ferme contre l'individualisme. Et le congrès s'est déroulé normalement après qu'il a été viré, quoi. Bon. Et donc a été constituée une organisation nationale, mais assez hétéroclite, parce que par exemple à Lyon, il y avait un groupe qui était opposé au syndicalisme, et puis c'est bon, qui n'avait pas des positions homogènes, quoi. Et devait être réuni un autre congrès, et puis il y a eu la guerre.
En 14, je sais plus si c'est en 14, mais effectivement la guerre n'a pas permis de.
Il devait même y avoir une réunion internationale qui n'a pas eu lieu, évidemment.
Oui. Bon.
Donc, le mouvement anarchiste a commencé à se remuer quand il était trop tard. Quoi.
Oui.
Bon, mais je ne sais pas s'ils auraient pu empêcher quoi que ce soit. Je ne pense pas. Les principaux militants les plus connus reconnaissaient que la capacité d'intervention du mouvement anarchiste n'était pas suffisante. Bon, ce qui n'aurait pas été le cas du syndicalisme, du mouvement syndical allemand et français, par exemple. Bon. Ça, je pense qu'il fallait le dire. Bon.
Mais est-ce que, bon, on peut rêver, est-ce que si la doctrine orthodoxe du socialisme allemand n'avait pas été jusqu'à avoir en main un mouvement syndical un peu chloroformé, ou en tout cas sous ses ordres, est-ce que le mouvement syndical allemand, avec la force qu'il avait, mais cette force, elle lui servait à quoi en fait ?
Alors, il faut savoir que les dirigeants socialistes allemands, et ça j'ai découvert ça en travaillant sur le bouquin, que j'ai lu beaucoup de textes, quoi.
Oui.
Les dirigeants socialistes allemands étaient persuadés que la guerre allait se conclure, qu'une victoire allemande dans la guerre allait se conclure par la prise du pouvoir par les socialistes.
Ah oui.
Et ça revient de manière régulière. Ça explique peut-être pas mal de choses.
Oui, c'est-à-dire que, on rappelle, ça date de Marx, il y a des marxistes les premiers, ils disaient, finalement, de toute façon, la classe ouvrière est majoritaire à la population, donc elle va finir par avoir le pouvoir, donc ils étaient encore sur cette ligne-là,
oui.
Plus ou moins, enfin,
oui.
Je sais pas. Et comme ils voyaient, effectivement, dans les élections successives, j'imagine, ils avaient de plus en plus de voix, d'élus, etc., donc ils se disaient, il faut continuer, quoi. Donc on préserve ce qu'on peut, les acquis, et on va... et suite à la guerre, mécontentement...
Ils étaient convaincus, mais même Engels... Enfin, pendant un temps, Engels pensait ça, puis à la fin, il avait un peu des doutes, quoi.
Ben moi, j'ai, enfin bon, c'est toujours facile d'avoir des doutes des dizaines d'années après, mais enfin, un État quand même comme ça, qui est relativement militariste, comme tu l'as dit, et qui l'était encore plus pendant une période de guerre, imaginez qu'au sortir de la guerre, ça va donner plus de poids au socialisme, ça me paraît un peu bizarre.
C'est ce qui s'est passé, en fait. Mmh. Parce que, mais sauf qu'ils n'ont pas... C'est à la suite de la défaite allemande qu'ils ont pris...
Absolument.
Que le socialisme allemand a pris le pouvoir.
Oui, non, mais la suite des défaites, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Hein.
On a vu ce que ça a donné, je veux dire. Oui. Bon. Mais c'est vrai qu'ils pensaient qu'ils accéderaient au pouvoir après la guerre.
Ah oui, d'accord.
Il y a pas mal de textes qui l'accréditent, quoi.
Bon. Et donc, il fallait accepter un certain nombre de reniements... par rapport à ce que socialiste doit faire en temps de guerre, quoi.
Ouais. Ouais. Moi je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais mon bouquin ne vise pas à justifier les positions de Kropotkine. Je pense qu'il a eu tort. L'argumentaire des anarchistes non kropotkiniens me paraissait assez pas convaincant du tout. Mais il n'empêche que Kropotkine a eu tort de signer ce manifeste, indépendamment du fait qu'après ça, il a foutu une bagaille pas possible dans le mouvement.
Bon. Ah bah j'imagine.
Bon. Je pense que quand... Enfin, Kropotkine devait être quelqu'un d'extrêmement autoritaire, en fait.
Plutôt jeune, en plus.
Il était plutôt jeune, et je pense qu'il était convaincu d'avoir raison contre tous. Et sa position s'explique en partie par ça, mais ça se justifie pas. Bon. Il faut avoir un raisonnement politique par rapport à sa position. Le tort qu'il a eu, c'est d'imaginer que de signer un manifeste en faveur de l'entente allait changer quoi que ce soit.
Ouais.
Donc c'était probablement quelqu'un d'extrêmement autoritaire. C'était certainement aussi quelqu'un d'extrêmement présomptueux. Parce que 15 personnes signant un manifeste, l'entente, le dirigeant de l'entente n'avait pas besoin des 15 signataires du manifeste pour soutenir leur effort de guerre. Donc ils auraient dû avoir au moins la modestie de se rendre compte de ça. Donc ça a été une faute, pas seulement une erreur, une faute théorique. Parce que je pense que quand on est opposé à une situation intolérable et qu'on n'a pas de moyens réels de modifier cette situation intolérable, qui est une guerre, il faut s'en tenir au principe. Parce que c'est le dernier refuge. C'est peut-être...
C'est un peu ce qu'avait fait Lénine en Russie à une certaine période. Complètement autre chose après, mais pendant la guerre, exactement, c'est exactement ce qu'il a fait.
La position de Lénine était parfaitement correcte. Rosa Luxembourg... Donc, ça a été une faute énorme, une faute politique énorme, dû à sa présomption et en s'imaginant qu'il aurait pu changer quoi que ce soit. Bon. Mais maintenant, il faut se dire quel était le message qu'il voulait transmettre. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il pouvait transmettre ce message? Et le message qu'il voulait transmettre, là, me paraît juste. C'est-à-dire qu'une victoire allemande allait avoir des conséquences terribles sur toute la politique européenne pendant un demi-siècle. On ne va pas s'étendre là-dessus. Mais ce message-là me paraissait juste. Bon. Donc, est-ce qu'il y avait moyen de transmettre ce message-là, c'est-à-dire un avertissement aux populations françaises et allemandes, parce qu'il s'adresse aussi aux Allemands. Est-ce qu'il y avait un moyen de transmettre ce message aux populations concernées, sans pour autant donner caution aux belligérants de cette guerre? Et je pense que oui. Et cette autre solution, cette autre option, curieusement, on la trouve chez quelqu'un qui est très proche de Kropotkine à cette époque-là. C'est Marie Goldschmidt, qui était une amie de Kropotkine.
Oui, d'ailleurs, je crois que tu dois citer des lettres entre eux. Enfin, ils se connaissent.
Il y a une correspondance, une correspondance très intéressante entre eux. Et elle partageait la position de Kropotkine, théoriquement, les analyses, disons, sur cette guerre. Mais elle a refusé de signer le manifeste. Et en gros, sa position, c'était on peut faire passer le message
D'une autre façon.
Et c'est elle qui a eu raison. Et c'est un peu la conclusion de mon travail. Maintenant, je voudrais parler d'un truc. Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à... C'est pas que je sois intéressé tant à Kropotkine, qui est pas mon, c'est pas ma tasse de, Kropotkine, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Il y a deux raisons. Parce que je pense que c'était nécessaire d'écrire quelque chose sur ses positions.
Oui, parce que c'est même dans les milieux anarchistes, en tout cas en France, c'est pas tellement connu. Hein. Il y a un certain nombre de faits qui ressortent.
Et il y a un réel malaise auprès des militants, parce qu'ils savent bien qu'ils sentent bien qu'il a fait des conneries, mais ils n'arrivent pas
à argumenter.
Je pense que ça leur permet de trouver une argumentation. Et l'autre raison est plus personnelle, c'est que mon père a fait la guerre de 14. En général, c'est les grands-pères. Mais sauf que mon père était âgé quand je suis né. Enfin, il avait 56 ans, donc il y a une génération qui a sauté. Et il a fait la guerre de 14. Il a été blessé, gazé et tout. Il était dans les tranchées. J'ai toujours eu une compassion extrême pour tous ces gars qui ont été victimes de cette énorme boucherie qui était un gaspillage pas possible, les morts mais aussi les blessés et tout, enfin bon, et ça m'a toujours beaucoup ému de penser à ces soldats qui sont partis obligés quoi, et qui beaucoup sont pas revenus, et d'autres sont revenus blessés, mutilés. Bon, c'est un peu aussi pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Ça peut paraître idiot.
Ça a quand même marqué dans les familles, moi, même si c'est avec un échelon supplémentaire, mais c'est mon grand-père. Hein. Plus lui, il s'était tapé 3 ans de service militaire, il part 4 ans de guerre. Bon, il a la chance d'en revenir avec une blessure pas très grave, enfin, par rapport à d'autres, mais c'est quand même 7 ans dans une vie, quoi, t'imagines. Et en plus, c'est un anti-militarisme. Bon. De toute façon, là, on prenait tout le monde. Et juste un dernier point qu'on n'a pas évoqué, qui a, je crois, quand même son importance. On a parlé beaucoup des socialistes, du mouvement ouvrier, mais enfin, puisqu'on parle de la guerre en tant que telle pour les gens normaux, comme on dit, ils ne sont pas forcément tous militants, tu dis et tu soulignes à juste titre que la classe qui a été décimée, c'est la classe paysanne, et que la classe ouvrière était relativement épargnée, y compris notamment, ils avaient besoin d'ouvriers qualifiés, ne serait-ce que pour l'industrie de guerre. Est-ce que tu dis, ça par contre, je n'avais pas fait attention, ou je n'avais pas encore lu. Il y a même eu certaines revendications ouvrières qui sont passées, en tout cas dans les industries d'armement, parce que rapport de force, finalement, on a besoin d'eux, quoi.
Absolument. Ceux qui ont massivement souffert de la guerre, c'était les paysans, mais aussi les instituteurs.
Les instituteurs, qui étaient un peu nombreux, l'encadrement des paysans.
Quand ils se sont aperçus que... il y avait des ouvriers qualifiés qui étaient partis au front, ils les ont rappelés.
Voilà.
Beaucoup, quoi. Et il y a eu un mouvement revendicatif extrêmement important pendant la guerre, qui ont obtenu des tas de trucs, y compris dans certaines branches, le contrôle syndical de l'embauche, etc. Enfin bon, des délégués d'ateliers là où ça n'existait pas. En Angleterre, les shop stewards, les délégués d'ateliers, ont été instaurés à ce moment-là.
Effectivement, tout ça.
Et ça mériterait une étude. Ça a certainement été fait.
Bah écoute, je pense que là, on arrive à la fin.
La plupart des revendications qui ont été obtenues pendant la guerre ont été...
faut pas déconner maintenant, on revient aux choses sérieuses. Je rappelle le livre, mais peut-être si tu l'as en tête, tu pourras nous dire à quelle occasion et où tu vas le présenter très bientôt. Le livre, René Berthier, aux éditions du Monde Libertaire, j'ai dû le dire une ou deux fois. Kropotkine et la Grande Guerre, mais comme si vous nous avez écouté, vous avez vu qu'il y a plein de choses dont on parle... qui n'ont pas trait qu'au manifeste des 16, mais à tout le contexte de l'époque. On te remercie beaucoup. On a montré qu'il y avait des tas de choses intéressantes dans ce livre, et puis on va laisser la parole à Monique et à la musique.
Et on va clore avec Michel Buller, Messieurs les militaires.
Quand vous ferez la guerre, ne comptez pas sur moi, messieurs les militaires, pour jouer aux soldats, pour tirer sur des hommes sans demander pourquoi, pour vous obéir comme vous l'espérez, je crois. Vous avez cru me prendre quand je vous ai suivi, moi je voulais apprendre à tenir un fusil. Je ne veux pas défendre n'importe quel drapeau. Je veux d'abord comprendre à qui j'offre ma peau. Quand vous ferez la guerre, vous la faites aujourd'hui, messieurs les militaires, dans de lointains pays. Vous semez la misère, la mort pour le profit de grands hommes d'affaires qui sont au chaud ici, qui gardent leurs mains blanches, qui ont de beaux habits, des habits du dimanche, même le mercredi. Êtes-vous donc si bête pour être si odieux? Non, simplement vous êtes du même monde que. Vous êtes de la race des maîtres et des seigneurs. Il n'y a pas de place pour vous dans mon cœur. Tout au long de l'histoire, vous avez exploité les miens pour votre gloire. L'auriez-vous oublié? Et vous voulez me faire croire que nous venons tous de la même terre? Je vous réponds que non. Quand vous ferez la guerre, je choisirai mon camp. J'irai avec mes frères, avec les pauvres gens. Voilà ce que je pense, messieurs les officiers, tortionnaires en puissance, valets des financiers. Nous n'avons pas le même intérêt, vous et moi, et la couleur que j'aime, vous, vous ne l'aimez pas. Juste encore une chose, avant de vous quitter, une question que je pose en toute humilité. Pourrez-vous me comprendre si je vous remercie? Vous avez su m'apprendre à tenir un fusil.